autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs. En ce mois des mémoires, pour remettre en lumière, 20 ans après l'adoption de la loi Taubira sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, les trajectoires individuelles des hommes et des femmes qui en ont été les victimes. Mais comment réinscrire toutes ces vies d'esclaves dans une histoire qui les en a exclues? Comment remonter sur leurs traces, pour la plupart effacées? Comment leur redonner une voix et la place qu'ils n'ont jamais eu? Voilà ce à quoi travaillent aujourd'hui des archéologues et des historiens sur tous les continents, pour mettre au jour une autre, ou plus exactement, de multiples autres histoires d'esclaves, tout aussi terribles, mais bien plus complexes et diverses qu'on ne pourrait le penser. Comment, sans tabou ni préjugé, partager ces nouvelles approches de l'esclavage qui en disent aussi long sur notre humanité que sur notre inhumanité? Nous vous proposons de réécouter la série de reportages, d'entretiens et de témoignages réalisés par Charlie Dupio de part et d'autre de l'Atlantique, diffusée une première fois en mai 2019, autour de la question « Pourquoi raconter des histoires de l'esclavage ?» depuis Dakar, première piste de réponse d'une jeune chercheuse sénégalaise.
En fait, ça a un sens. Ça signifie beaucoup de choses que les Sénégalais s'intéressent à ça. Ça veut dire que on est conscient de notre histoire. C'est l'histoire de l'esclavage à étudier. D'autres peuvent le faire. Mais nous qui sommes de la société, qui connaissons la société, je pense que nous devons être plus à l'aise d'étudier notre histoire.
Vous venez d'écouter Henriette Yag, jeune doctorante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une des formidables chercheuses que vous avez rencontrées, Charlie Dupio. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Vous avez mené l'enquête, Charlie, auprès d'archéologues, d'historiens, d'historiennes qui, des Antilles jusqu'à La Réunion, en passant par l'île Tromelin, l'île aux esclaves oubliés, exhument précisément des pans d'histoire totalement oubliés, occultés. C'est une nouvelle approche de l'esclavage, plus complexe, plus diverse, moins manichéenne, mais tout aussi troublante.
Oui, j'ai rencontré des chercheurs et des chercheuses dont le travail vise à retracer des parcours individuels d'esclaves pour les replacer au centre de cette histoire. Ils sont nombreux à avoir adopté cette approche au sein du CIRESC, c'est le Centre international de recherche sur les esclavages basé à Paris. Et c'est le cas de la doctorante Jessica Balgui qui s'est penchée sur une période bien précise en Martinique.
En 1848, l'abolition de l'esclavage est proclamée en France et à ce moment-là, on considère qu'il est important d'indemniser les anciens propriétaires pour la perte de ce que la loi avait jusqu'ici considéré comme un bien. Donc l'État français va verser 126 millions de francs, d'anciens francs, à tous les anciens propriétaires d'esclaves de l'Empire colonial français, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Sénégal, à La Réunion, ainsi qu'à Sainte-Marie et Nocibé.
Alors ça concerne combien d'indemnités en tout ?
Il y a environ 10 000 anciens propriétaires d'esclaves sur l'ensemble des colonies. Chaque colonie va recevoir un montant précis, en sachant que pour chaque colonie, un esclave n'a pas le même prix. Je vais vous donner un exemple. En Martinique, la valeur d'un esclave a été estimée à 425 francs 25. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les colonies. L'estimation est plus élevée pour la Guadeloupe et pour la Réunion, par exemple. Et inversement, au Sénégal, un esclave est considéré comme ayant moins de valeur.
Combien vaut un être humain? Comment, à l'abolition de l'esclavage, l'État français a-t-il indemnisé les propriétaires d'esclaves qui ne sont pas toujours ceux que l'on croit? C'est ce qu'a découvert Jessica Balgui en compulsant les archives de la Martinique.
Je me suis intéressée à la Martinique parce que j'ai été très surprise de voir le nombre de libres de couleur qui étaient présents dans ces listes. Donc je rappelle que les libres de couleur, ce sont les descendants d'affranchis ou affranchis eux-mêmes avant l'émancipation générale de 1848.
Donc ce sont des descendants d'esclaves en fait, c'est ça?
Oui, ce sont les descendants d'esclaves ou qui eux-mêmes ont été esclaves à un moment mais qui ont été libérés avant l'abolition de l'esclavage et qui ont pu à un moment racheter des esclaves ou devenir propriétaires d'esclaves et qui donc se retrouvent indemnisés au moment de l'abolition de l'esclavage.
Et vous avez été surprise de voir que parmi les indemnitaires, ceux qui ont touché des indemnités, on avait des libres de couleur?
En fait, c'est quelque chose qu'on sait. Dans l'historiographie, on connaît bien ce groupe des libres de couleur. En revanche, ce qu'on ignorait, c'était à quel point ils étaient présents dans ce système esclavagiste et comment... c'est ce que j'essaye d'étudier justement, comment ils prennent part à cette possession d'esclaves, comment ils viennent à ce moment-là faire valoir leurs droits, et du coup ça nous renseigne sur comment ils sont insérés dans cette société et ce système économique. Donc ce qui était surprenant, c'était pas leur présence, mais c'était leur nombre en fait. C'est que là ils représentent, en tout cas pour ceux que j'ai réussi à identifier, et c'est qu'une partie, ils représentent près de 20% des indemnitaires. 20% des anciens propriétaires d'esclaves ayant reçu une indemnité sont des libres de couleur. Donc c'est quand même un chiffre important.
Parmi ces libres de couleur, on a donc des affranchis. Qu'est-ce qui leur vaut d'être affranchis ? Pourquoi ils sont affranchis, en général ?
Il y a une diversité de cas. On a dans les années 30, 31, 32, 33, des vagues d'affranchissement. Du coup, parmi ces populations, il y a d'anciens esclaves, mais il y a aussi ce qu'on appelle les libres de fait, c'est-à-dire des personnes qui étaient en fait libres, mais qui ne jouissaient pas d'un statut officiel, qui n'étaient pas reconnus par l'administration coloniale. Or, ils étaient en fait libres, ils avaient des esclaves, etc. Donc on a vraiment beaucoup de profils. On a des personnes qui ont été libérées pour cause de mariage et qui peuvent être propriétaires d'esclaves, mais s'ils sont sur les listes, c'est qu'ils étaient soit propriétaires d'esclaves, soit créanciers d'anciens propriétaires d'esclaves, donc avec une richesse suffisante qui leur permettait de prêter de l'argent à des propriétaires d'esclaves.
Pour votre thèse, vous vous êtes intéressé notamment à des archives. Quelles données en fait on a sur ces personnes libres de couleur, comme on les appelle, qui ont été propriétaires d'esclaves en Martinique ?
La première façon de repérer les libres de couleur, c'est de s'intéresser à tous ceux qui n'ont pas de patronyme. Il n'existe pas de personnes catégorisées comme blanches n'ayant pas de nom de famille. Donc quand on a la liste et qu'on voit une Madeleine ou je ne saurais pas vous dire, Montou, il y a des listes, des centaines de prénoms isolés comme ça, on sait que ce sont des libres de couleur et que c'est difficile de dégager des statistiques pour faire une sorte d'histoire du groupe des libres de couleur indemnitaires. C'est surtout ça mon constat, c'est que il y a 216 profils et 216 histoires à raconter propriétaire d'esclaves, mulâtre, aisé, qui va se faire indemniser pour la possession de 33 esclaves, au mulâtre, toujours dans une position assez aisée, mais qui lui est un fervent abolitionniste et qui du coup ne reçoit aucune indemnité, parce qu'il n'a pas d'esclaves, mais en revanche reçoit énormément de colocations, donc ça veut dire qu'il a prêté de l'argent à des anciens propriétaires qui l'ont remboursé grâce à cette indemnité. Donc on a ce genre de profil. On a aussi une dame qualifiée de négresse africaine et qui est libérée, obtient un titre de liberté en 1833, donc n'est pas née dans la colonie, est libérée en 1833 et qui, en 1849, reçoit une indemnité pour la possession d'un esclave. Elle est cultivatrice et reçoit cette indemnité. Et voilà, c'est intéressant de voir la diversité de ses parcours entre les femmes, les hommes. Chacun a sa propre trajectoire, effectivement. Et c'est intéressant d'avoir construit cette base de données parce que c'est une base de données sur laquelle je m'appuie avec le maximum d'éléments biographiques possibles. Et de voir cette grande diversité, ça apporte une analyse plus fine et plus précise de cette société esclavagiste qu'on a tendance à voir avec des blocs monolithiques, les propriétaires d'esclaves blancs, les esclaves noirs. Donc c'est une analyse un peu nouvelle, un peu fine, à partir de l'entrée des libres de couleur qui, par leur parcours et par leur position dans cette société, nous renseignent sur le fonctionnement de cette société, et notamment sur les questions raciales qui sont centrales dans cette société et qui le reste encore aujourd'hui.
Slavery chains done broke at last. Them slavery chains done broke at last. Gonna praise God till I die. Way up in that valley, just a praying on my knees. Telling God all about my troubles, yeah, and to help me if he please. Everybody say,
slavery's chains done broke.
Everybody say, everybody say,
slavery's chains done broke at last. Gonna praise God till I die.
Way up in that valley,
just a praying on my knees, telling God all about my troubles, yes, and to help me if he please. Everybody say,
Slavery's chains done broke at last, broke at last, broke at last. Yeah, slavery's chains done broke at last, gonna praise God till I die.
Well, I told him how I suffered in the dungeon, in the chains, and the days I went with my head bowed down and my broken flesh in pain. Everybody say,
Slavery's chains done broke at last, broke at last, broke at last. Slavery's chains done broke at last, gonna praise God till I die.
Well, I know my Jesus heard me, 'cause the Spirit spoke to me, say, rise up now, my servant, and you too shall be free. Everybody say,
Slavery chained and broke at last, sur RFI. Autour de la question de l'esclavage, comment aujourd'hui les chercheurs réinscrivent dans l'histoire ceux qui en ont été effacés, mettant au jour des trajectoires multiples et diverses d'esclaves, dont certains ont réussi à s'affranchir, une histoire des histoires bien plus complexe, moins manichéenne que révèlent ces travaux sur ces sociétés esclavagistes dans leur ensemble, car l'esclavage au fond c'était tout un système, pas seulement un système économique dont il faut remonter la trace, Charlie.
Oui, et ces chercheurs se plongent dans les registres d'état civil qui mentionnent le nom, au moins le prénom de ces esclaves, parfois affranchis, leur profession, leur changement de statut parfois. Et c'est un travail très minutieux qui est donc basé sur les écrits. Antonio de Almeida Mendes est enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Il est également membre fondateur du CIRESC, le Centre de Recherche Internationale sur les Esclavages.
Ça révèle, oui, une histoire qu'on avait alors longtemps oubliée, parce que l'histoire de l'esclavage s'est trop longtemps confondue avec l'histoire de la traite, qui sont deux histoires différentes. Donc on était resté un peu à cette image des navires négriers. Donc une histoire qui était une histoire hors Europe, et qui était une histoire qui concernait surtout l'Afrique et les Amériques. Donc on était resté un peu dans cette image du navire négrier, de la société de plantation, du fouet. Donc là, ça nous révèle des hommes et des femmes qui ont lutté pour leur survie et qui sont devenus acteurs de leur histoire. Donc on sort d'une logique où on pense l'homme esclave comme une marchandise et comme le produit du capitalisme et de la traite négrière, pour penser alors des hommes et des femmes qui ont combattu pour leur liberté, pour leur survie, et qui ont pu s'enfuir. Comme il y a beaucoup de cas de révolte, de fuite dans les sociétés esclavagistes aux États-Unis, mais aussi dans les Caraïbes. Donc c'est une manière, je crois, qui est extrêmement importante d'humaniser l'esclavage, et de façon réelle, avec des noms, des visages, et pas juste des chiffres, comme on l'a pensé pendant très longtemps. C'est des archives produites très souvent par les États, et c'est des archives économiques qui ont un but précis, qui ont de contrôler, de réguler ce système. Il faut, quand on est historien, aussi donner la voix à ceux qui n'ont pas la voix. Parce que les esclaves, on n'a pas de photos, très souvent on n'a pas leur voix. C'est souvent des maîtres ou d'autres personnes qui parlent à leur place en disant « mon esclave a fait ceci ». Donc on ne se cachait pas d'avoir des esclaves. Et très souvent, on allait se plaindre devant la justice de son esclave, qui s'était enfui, qui n'était pas ceci. On achetait des esclaves sur les marchés publics. Donc on a tous ces actes-là. Et donc là, il y a eu un changement dans les années 2000. On peut appeler ça une sorte de tournant autobiographique. On a commencé à suivre pas seulement des esclaves, mais des affranchis. Et donc on a commencé à penser la complexité de ce que pouvait être une société esclavagiste. C'est-à-dire qu'on n'était pas esclave toute sa vie. Donc ensuite, on était affranchi, on luttait pour sa liberté, ensuite pour sa survie. Voilà, il faut sortir de cette histoire où on naturalise les rapports sociaux en partant du principe qu'on est esclave toute sa vie. Parce que, y compris, on est noir. Donc il faut sortir de ce discours, qui est un discours produit très souvent par le regard européen ou par la colonisation. Notre travail aujourd'hui d'historien n'est pas juste celui de réfléchir qu'est-ce qu'a été la traite, mais aussi de pouvoir réfléchir donc à une société extrêmement complexe et une société qui n'était pas juste une société en noir et blanc.
Comment sortir de cette vision manichéenne? Comment comprendre dans toute leur complexité ces sociétés esclavagistes? Jusqu'à présent, Charlie, les chercheurs se contentaient des sources, des écrits des esclavagistes eux-mêmes. Aujourd'hui, ils ont d'autres sources, d'autres outils archéologiques notamment.
Oui, l'archéologie de l'esclavage se développe depuis une vingtaine d'années. Elle permet de recueillir des informations dans des cimetières d'esclaves, notamment en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, des cimetières qui sont souvent sur des plages, donc ils sont fragilisés, avec aucune indication en surface. Et c'est en fouillant qu'on les découvre, avec notamment des squelettes aux dents limées, ce qui indique certains rites culturels africains. Et puis, des fouilles archéologiques sont menées aussi sur des habitations d'esclaves et d'autres lieux. On le verra. En tout cas, tout cela contribue à laisser des traces et à dessiner une autre histoire de l'esclavage, ou plutôt des histoires de l'esclavage. Myriam Cotias est directrice de recherche au CNRS. Elle est aussi directrice du CIRESC.
Cette histoire de l'esclavage, elle est extrêmement complexe et diverse. C'est-à-dire qu'on l'a présentée pendant très longtemps et on a encore des tendances à la présenter de façon très binaire et presque manichéenne. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le bien, d'un côté, il y a le mal, d'un côté, il y a des blancs, d'un côté, il y a des noirs. Or, en étudiant l'histoire de l'esclavage par le biais des esclavisés, on se rend compte que cette société, elle est traversée par une multitude de liens qui passent au-dessus de la barrière de libre-esclave, qui passent au-dessus de la barrière de noir-blanc. C'est-à-dire qu'il y a des solidarités qui peuvent se créer, qui sont des solidarités affectives, hein, mais qui peuvent être aussi des solidarités économiques. Par exemple, des systèmes de dettes, des systèmes de prêts aussi qui existent.
Dans quelle situation, par exemple ?
Par exemple, un esclavisé qui vend à son maître, hein, qui ne donne pas, mais qui vend un cabri ou un mouton ou un cochon. Le propriétaire n'a pas l'argent pour le payer immédiatement, donc la dette, elle va se construire entre les deux. Et toutes ces relations montrent que c'est une véritable société, c'est-à-dire que on est dans une société esclavagiste qui n'est pas une société du salariat, donc où la force de travail est une force de travail qui ne peut être qu'esclave. Hein. Donc les libres de couleur vont acquérir des esclaves pour cette raison-là. Alors ils ont c'est une plus petite propriété, ils ont moins d'esclaves que les propriétaires de grandes plantations, mais ils en ont. Ça, c'est la première explication. Il y a une autre explication et sur laquelle on a pour l'instant pas assez travaillé, c'est comment il va y avoir des organisations familiales où finalement les frères et sœurs d'une personne qui elle est affranchie vont être considérés comme esclaves sous la responsabilité de cette personne-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des négociations ensuite dans l'organisation de la société coloniale pour que sans éviter le statut d'esclave, ces personnes soient placées sous le patronage, comme on disait à l'époque, d'un membre de leur famille qui était une personne libre. Et ce qui nous manque dans les analyses, c'était quel était le contenu réel de la relation esclavagiste. C'est-à-dire comment, si vous avez votre mère esclave qui est placée sous votre patronage alors que vous êtes son fils ou sa fille et que vous êtes libre, voilà, qu'est-ce qu'elle devient, cette relation esclavagiste? On peut quand même envisager qu'elle soit simplement statutaire et administrative.
Comment expliquer justement que cette histoire de l'esclavage ait été autant polarisée et simplifiée?
Je pense que la pensée abolitionniste, qui a eu certainement besoin de montrer comment l'esclavage était une abomination, a simplifié énormément aussi la description des sociétés esclavagistes. Et d'une certaine façon, on en est resté un peu là. Parce que travailler sur la complexité pendant très longtemps, et peut-être encore un peu actuellement, revenait à minorer la relation esclavagiste. C'était dire, ben, finalement, oui, et là je caricature à outrance, il y a eu des Noirs qui ont possédé des Noirs, donc finalement, c'est pas si important, ou c'est moins important que des Blancs aient été majoritairement propriétaires d'esclaves. Ça voulait dire qu'on excusait.
Alors justement, en quoi aujourd'hui ça vous paraît important de repenser l'histoire de l'esclavage, de continuer à travailler sur cette histoire dans toute sa complexité?
C'est important de travailler sur l'histoire de l'esclavage, premièrement parce qu'on ne connaît pas tout. Et l'histoire récente, par exemple, des marchés d'esclaves en Libye, ce qui est singulier, en même temps inquiétant et horrifiant, c'est que, bien sûr, le fait que des êtres humains soient vendus, mais c'est aussi le fait que ça se fasse sur les mêmes places qui, historiquement, étaient déjà, c'est-à-dire dans les siècles passés, étaient déjà des marchés d'esclaves. Donc on voit bien que là, il y a un travail qui est à faire pour qu'on fasse le lien entre l'esclavage du passé et puis les formes d'esclavage contemporaines.
Tichuang, Emmanuel Jal et Nirwatch, deux voix du Soudan qui résonnent sur RFI. Autour de la question de l'esclavage aujourd'hui comme hier, comment retrouver les traces, le parcours, les trajectoires, le calvaire de tous ceux qui ont été effacés de l'histoire officielle? Vous nous emmenez maintenant, Charlie Dupiau, sur l'île de la Réunion et sur les traces perdues des esclaves marrons.
Oui, sur l'île de la Réunion, l'esclavage a commencé avec la colonisation dès 1663, avec des esclaves le plus souvent originaires de Madagascar, qui ont travaillé dans des plantations de café et puis surtout de sucre. Et l'histoire de l'esclavage est intimement liée à celle du marronnage. Alors les marrons, ce sont les esclaves qui ont fui pour une durée plus ou moins courte et plus ou moins loin des habitations de leurs propriétaires. Ils ont survécu en dérobant de la nourriture, des vêtements et autres dans certaines plantations et puis bien sûr en courant un grand danger. Et certains se sont mis à l'abri très haut et très loin sur cette île montagneuse dont le plus haut sommet culmine à 3000 mètres d'altitude. J'ai joint Anne-Laure Dijoux, elle est archéologue, docteur en archéologie à l'université Paris 1, réunionnaise. Elle travaille sur un endroit très précis de l'île.
Alors la Vallée Secrète, donc, c'est un site archéologique exceptionnel qui se situe à La Réunion, dans le siècle de Sillaos. Donc il est à plus de 2200 mètres d'altitude. On peut aujourd'hui, hein, on peut seulement y aller par hélicoptère ou par des techniques d'escalade. Donc nous, on a choisi l'hélicoptère pour y aller puisqu'on a monté deux missions archéologiques. Donc ce qu'il y a au sein de la vallée, donc déjà c'est une vallée en forme de goulot. Et il faut s'imaginer deux parois rocheuses qui s'enferment. Et au sein de cette vallée, donc en plein milieu, à un endroit où on peut absolument pas être vu. Donc il y a un groupe d'hommes qui s'est installé là et qui a construit donc deux cabanes en pierre sèche. Il reste que les fondations. Donc ça pouvait, je pense, accueillir une dizaine en chaque. Alors donc en fait cette découverte de la vallée elle-même, elle a eu lieu fortuitement lors d'une mission écologique qui cherchait donc des oiseaux marins. Pour faire quoi? Donc ils sont tombés sur les oiseaux en question et puis un peu plus bas ils ont vu ces structures. Donc ça c'était en 1995. Et alors, c'est tombé aux oubliettes. Hein. Il y a eu des articles, mais sans suite. Et ça m'a interpellé parce que la situation géographique du lieu, déjà, elle crie haut et fort marronnage. Donc, c'est-à-dire que l'esclave va choisir de s'émanciper. Il va partir, il va fuir dans les bois, généralement, parce qu'évidemment, ces personnes-là étaient celles qui vivent constamment. Elles étaient chassées. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des détachements en place. C'était un phénomène très important à La Réunion. Même les habitants étaient enrôlés pour aller à la chasse aux marrons, pour reprendre l'expression qu'on retrouve dans les archives. Donc la vallée secrète, c'est vraiment un exemple extraordinaire de survie. Pour l'instant, c'est le seul site archéologique de marronnage avéré à La Réunion. On pouvait voir les détachements arriver. Les détachements de chasseurs, on en pouvait entendre les chiens des chasseurs. On est dans un campement extrême, donc de type survie extrême, c'est-à-dire que rien que pour se rendre à la vallée secrète, dans le temps, il fallait utiliser des cordes. Voilà, en cas de proximité trop évidente, on pouvait fuir. Et alors, pour trouver le Graal, et le Graal, c'était des colonies de pétrels de barreaux. Donc, c'est un oiseau endémique de l'île, un oiseau marin. Il est présent de novembre à mai, et ensuite, il part en mer. En fait, ils avaient seulement à se baisser dans les terriers et de prendre les oiseaux, juste avant qu'ils soient capables de voler. Et grâce à la fouille archéologique, donc on a pu mettre en évidence à l'intérieur de chaque cabane un foyer central. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont cuit les pétrels qu'ils ont capturés directement à l'intérieur des cabanes. Et puis, la vallée, il y avait également donc, un petit ruisseau qui coule encore aujourd'hui, donc l'approvisionnement en eau était relativement simple.
Mais alors, comment faisait-il pour se nourrir quand les oiseaux repartaient en mer?
Eh bien, on pense que, voilà, une des conclusions de nos fouilles, c'est que c'était un campement saisonnier. Donc là, il faut vraiment revenir en arrière, essayer de s'immerger, de se projeter en tant qu'esclave marron. Vous êtes tout seul dans le froid, donc dans cette vallée secrète, on peut quand même atteindre les 0 degrés, hein, pendant l'hiver. Et vous n'avez pas à manger, donc où vous allez?
Est-ce qu'on a une idée de la période historique pendant laquelle ces marrons ont vécu sur ce campement vraiment niché, hein, entre deux falaises, à une altitude très élevée?
On a fait une datation absolue sur un fragment de tuyau de pipe en terre cuite, dont le résultat a été très précis. Donc on a pu obtenir la date de 1822, plus ou moins 13 ans. Donc, ce qui nous place totalement dans la période de l'esclavage, qui a été abolie à La Réunion en 1848. La punition ultime, c'était la mort. Et s'ils étaient ramenés, alors ils avaient donc le jarret coupé, donc c'est-à-dire le pied coupé, et une marque au fer rouge, donc la fleur de lys, donc le symbole du roi. Et parfois, pour montrer l'exemple, on tuait des marrons capturés sur la place publique. Dans le cadre du marronnage, on célèbre leur audace, leur courage de dire non à l'esclavage et de partir en survie sans savoir s'ils vont pouvoir survivre. Donc il faut documenter cette histoire, elle est très importante. Comment des hommes ont pu survivre dans de telles conditions? Donc là, en fait, on documente l'espèce humaine et la résilience de l'homme.
Et cette vallée secrète est le seul site de marronnage mis au jour sur l'île de la Réunion, alors que les écrits, notamment les registres des chasseurs de marrons, comme on les appelle, dans lesquels ils relatent leur quête d'esclaves en fuite, eh bien ces écrits mentionnent l'existence de plusieurs camps de marronnage sur l'île de la Réunion, pour l'instant non découverts et donc qui n'ont pas encore été fouillés.
À suivre, In Memoriam, en hommage à ces hommes et à ces femmes, on écoute Daniel Waro, poète réunionnais engagé, qui chante le calvaire de ces esclaves marrons sur RFI.
Il y a où aller d'un millier la mer, de navets gros blancs, si bateau longtemps. Il y a où d'un fond, sous bateau longtemps, de navets bonne noire, t'es comme les animaux. Zoti viens pas ici, zoti ben dans le sang, zoti viens pas là, nan à l'océan. Zoti viens pas ici,
zati ben dan sa zati bia bala nana l'océan
bam kalubam bam kalubam bam kalubam bam kalubam bam kalubam bam kalubam
Daniel Warraud sur RFI, le Maloya des esclaves marrons à La Réunion. Autour de la question, pourquoi raconter des histoires de l'esclavage ? Charlie Dupuy, vous vous êtes aussi arrêté sur une autre histoire terrible et emblématique. C'est celle de l'île Tromelin, l'île des esclaves oubliés, qui fait actuellement l'objet d'une exposition à Paris au Musée de l'Homme.
C'est une histoire qui marque et a raison. Elle remonte à la fin du XVIIIe siècle et elle a été popularisée par une bande dessinée récente de Sylvain Savoya que je vous recommande. Tromelin, c'est un îlot de sable battu par les vents en plein océan Indien, à 500 km au nord de l'île Maurice, qu'à l'époque on appelait l'île de France. Et depuis 2006, Max Guérou, archéologue et commandant, fouille cette île en quête de traces pour raconter l'histoire bien particulière d'un naufrage, celui de l'Utile, un navire de la Compagnie des Indes qui avait embarqué sans autorisation à son bord 160 esclaves. Le bateau avait quitté Madagascar pour aller l'île de Rodrigue avant de buter sur un îlot de sable, un îlot de 1 km².
On est le 31 juillet 1761. Tout le monde se trouve piégé dans un bateau qui n'est ni au large ni sur la terre, entre les deux, sur les récifs, et c'est très brutal. Et quant aux esclaves, ils étaient parqués dans la cale et on a cloué les panneaux. Et comme de juste, bien sûr, au moment du naufrage, personne ne va déclouer les panneaux, donc ils sont coincés dans la cale du bateau qui est en train de couler. Les malgaches qui seront rescapés sont ceux qui pourront s'échapper quand le bateau sera complètement disloqué. Mais ça veut dire que à peu près la moitié d'entre eux sont noyés dans ce naufrage, alors que l'équipage, il y a moins de 20 personnes qui sont noyées. Sur 140 à peu près.
Donc 80 esclaves meurent noyés.
Oui, tout à fait. C'est l'officier en second qui prend en main l'organisation sur l'île. D'abord en envoyant une équipe essayer de trouver de l'eau. Il creuse et par une profondeur de 4 mètres, hein, je vois 4 mètres 50, il trouve de l'eau qui n'est pas très très ragoûtante, un peu saumâtre, trouble. Mais qui va assurer la survie de tous les gens qui sont sur l'île et assurera la survie ultérieurement des esclaves pendant 15 ans. À ce moment-là, le second, donc on met des campements et on entreprend de récupérer les pièces de charpente du bateau naufragé pour construire une embarcation de fortune avec les restes de l'épargne. De toute évidence, les malgaches survivants aident à la construction du bateau. On gré le bateau, mais le problème c'est que... Il n'y a pas la place pour tout le monde, donc bien sûr, on laisse les esclaves, forcément. Hein, bien, il n'en est pas question de faire différemment, et on leur laisse un peu de vivre qu'on a récupéré sur le bateau. Et le second capitaine promet de venir les rechercher. Mais il n'arrivera pas à convaincre les gens qu'on envoie des secours, donc, pendant 15 ans. Et donc quand enfin un bateau réussit à prendre contact avec les naufragés, à les récupérer, il ne reste que cette femme et un bébé de 8 mois.
Comment on explique qu'il n'est resté que cette femme et un enfant ?
Pas d'hommes.
Quand on récupère les sept femmes, elle raconte un peu que, après avoir entendu un moment, les plus volontaires ont construit un radeau. Et c'était 18, je crois, qui sont partis sur un radeau qu'ils ont construit dans les années qui ont suivi le naufrage. Donc il y a forcément une quarantaine de gens qui sont morts sur l'île. Bon, on peut imaginer qu'il y a des gens qui peuvent mourir de maladie, hein, puisque il semble que les Malgaches qui étaient sur l'île étaient pour l'essentiel des gens des hauts plateaux. Ils couraient autant de risques que les Blancs d'attraper des fièvres ou la malaria. Donc on peut imaginer que ces gens ont pu, dans les premiers moments, mourir de fièvre. Mais on n'a pas d'informations là-dessus, puisqu'on n'a pas trouvé les sépultures de ces gens-là.
Max Guéroux, vous avez écrit à propos de cette histoire, « Ce qui émerge de ces longues heures passées, courbées sur le sol, à interroger des indices matériels souvent ténus, c'est que déracinés, coupés du monde, dans le dénuement le plus complet, les survivants abandonnés à leur sort ont utilisé les rares ressources disponibles pour survivre, puis reconstruire une petite société avec volonté, méthode, obstination et une force vitale qui force l'admiration. Ils ont par là même recouvré, comme par défi, la dignité et l'humanité qui leur avaient été déniées. » Est-ce que vous, aujourd'hui, en retrouvant les traces en fait, de cette humanité, vous aussi, vous contribuez à leur redonner une dignité?
C'est certain qu'on leur donne une certaine visibilité. Les descendants d'esclaves portent en eux, quel qu'il soit, une espèce de traumatisme qui est transmis de génération en génération et qu'ils ont un mal infini à s'en tirer. Et que pour nous, parler de cette histoire sans en faire un enjeu politique ou idéologique, c'est peut-être une manière de leur permettre de faire que ce poids soit plus léger.
Le naufrage et les deux mois qui ont suivi ont été documentés par l'écrivain de bord du navire avant son départ avec les autres membres survivants de l'équipage. Mais après leur départ, s'en suivent donc 15 années de survie qui ne sont pas documentées. Mais fort heureusement, il reste des vestiges archéologiques découverts fortuitement avec l'installation d'une station météo française sur l'île dans les années 50. Il a fallu plusieurs décennies avant de se mettre à les étudier au début des années 2000. Thomas Romond est archéologue à l'INRAP. Lui aussi travaille sur cette île de Tromelin dans l'océan Indien, sur laquelle donc de nombreux objets archéologiques ont été découverts.
Maintenant, c'est véritablement à l'archéologie seule d'apporter des informations sur ce qui s'est passé sur cette île pendant ces 15 ans. Donc on retrouve plusieurs types de traces. D'une part, ce qu'on appelle la stratigraphie et une sorte de chronologie. Et c'est la lecture des couches au sein des sondages et qui nous donne une première information, c'est que finalement, la première occupation de l'île, c'est à la suite de ce naufrage. Avant, il n'y a pas de traces humaines sur cette île avant ce naufrage. Dans ce niveau archéologique, les premiers éléments qu'on va retrouver, c'est des éléments de rejet de la vie de tous les jours, et en particulier des éléments de cendres et de charbon qui nous indiquent qu'ils avaient le feu, et donc ils ont eu le feu pendant toute la durée qu'ils ont séjourné sur l'île, pendant tout leur séjour sur l'île. Également, on retrouve énormément de restes de consommation, des petits os ou des os plus gros, mais des os d'animaux qui ont été consommés et qui ont été rejetés. Donc ça, c'est ces premiers éléments. L'animal qu'ils ont consommé en plus grand nombre, c'est un oiseau qui s'appelle le sterne, qui est un petit oiseau de la taille d'un pigeon à peu près, mais c'est un oiseau marin et qui a certainement pas le goût de pigeon, plutôt un goût de poisson. L'autre animal qui est consommé en moins grand nombre d'individus, mais certainement un nombre beaucoup plus important en quantité, en poids de chair, c'est la tortue. Et donc un autre point intéressant sur ces tortues, c'est qu'il y a de l'industrie, des objets qui sont fabriqués avec les os de ces tortues. Également les carapaces, les dos osseux des tortues qui sont découpés pour en faire des récipients.
C'est aussi que les naufragés n'ont pas seulement survécu, ils ont aussi vécu.
Absolument, l'idée d'aller au-delà de la survie, dans le sens où, donc là je vous ai parlé d'objets utilitaires, on pourrait parler aussi, ils ont fabriqué des cuillères, ils ont fabriqué des pics, mais ils ont aussi fabriqué des objets qui ont peu d'utilité ou pas d'utilité, et des objets de parure, des bracelets, des petites chaînettes, donc plus des bijoux ou des objets religieux, ça c'est difficile de le définir, mais ils sont allés au-delà de la survie en fabriquant des objets pas forcément utilitaires.
Quel rôle joue Tromelin, cette île, dans la compréhension de l'esclavage aujourd'hui ?
En fait, il se trouve que Tromelin, c'est un exemple extraordinaire, c'est une histoire extraordinaire, et du coup, c'est un média extraordinaire pour parler de l'esclavage, mais c'est aussi quelque chose qui est très, très, très émouvant de pouvoir se dire, ce caillou qui est retourné avec ce petit bol abandonné juste à côté, c'est probablement une pierre où quelqu'un était assis juste avant que le bateau arrive, et quand le bateau arrivait, il a posé son bol, il s'est levé, et il est monté sur le bateau, il est parti, et nous, on retrouve cet instant, et ça, c'est très... je sais pas comment on dit le mot, mais
vous êtes encore ému.
Ouais, très émouvant.
Autour de la question sur RFI. Caroline Nachowski.
Comment porter un autre regard sur l'esclavage en général à travers toutes ces terribles histoires d'esclaves oubliés? De plus en plus de chercheurs sur tous les continents, Charlie Dupuis, s'attachent à réinscrire dans l'histoire, dans notre histoire, tous ceux qui en ont été effacés, et ce notamment sur le continent africain.
Oui, des chercheurs renommés comme Ibrahim Atcho, Abderrahmane Gaïdé et d'autres. Et la relève est assurée avec cette jeune doctorante sénégalaise, étudiante à l'université Cheikh Anta Diop. Henriette Yag.
Alors, le Sénégal fut une colonie française, mais qui a connu très tôt la traite et l'esclavage, de manière interne d'abord, avant l'arrivée des Européens. La traite transsaharienne interne, ça veut dire qu'il y avait des esclaves au Sénégal pour des Sénégalais. On le retrouve presque partout sur le plan africain. Même si la traite est abolie depuis bien longtemps, de même que l'esclavage, actuellement il y a des idéologies qui persiste, et il y a une certaine marginalisation sur ces descendants d'esclaves.
Ça veut dire qu'on sait qui est descendant d'esclaves et qui ne l'est pas?
Oui, on peut le savoir, surtout en milieu rural. Dans un milieu où les gens se connaissent, ont vécu ensemble depuis plusieurs générations, c'est fort possible que l'on sait que telle personne est un descendant d'esclaves. En fait, c'est difficile parce qu'il y a une certaine honte à s'assumer comme un descendant d'esclaves, parce qu'il y a tout un système de marginalisation autour. Alors, ça se manifeste surtout à l'occasion des mariages. Et quand on s'entête, quand on se marie malgré les interdictions, les enfants risquent d'en souffrir. Parce qu'on va les taxer d'esclaves à moitié. Et aussi dans certaines fonctions traditionnelles. Il y a des fonctions traditionnelles que des descendants d'esclaves ne peuvent pas atteindre. Par exemple, il y a des fonctions comme chef de village. Ça peut être également difficile pour lui de devenir même imam d'une mosquée là-bas, même si la religion musulmane n'est pas contre cela.
Quels préjugés pèsent sur ces descendants d'esclaves?
On dit qu'ils ont hérité de certains caractères de leurs aïeuls qui étaient esclaves. Par exemple, ils ne sont pas sincères. Il y a certains milieux où on dit que les descendants d'esclaves a généralement la peau noire très foncée, qu'il a de grands pieds, qu'il peut être robuste et qu'il est mentalement assez limité. Il n'est pas très très intelligent. Donc c'est juste pour montrer par exemple comment ces idéologies peuvent être ancrées dans la société.
Alors vous avez donc enquêté, vous avez mené plusieurs enquêtes de terrain à travers tout le Sénégal. Qu'est-ce que vous avez retrouvé? À quelles difficultés vous êtes confrontée?
Vrai tabou, silence, vraiment. Les gens n'en parlent pas. En fait, ceux qui acceptent de vous parler, ce sont les gens qui se définissent comme des descendants de propriétaires d'esclaves. Ils vous disent fièrement que mes ancêtres avaient des esclaves. Telle famille, dans telle demeure, étaient nos esclaves. Ça, on l'entend partout. Et des fois, on a même l'impression qu'il n'y a que des descendants de propriétaires d'esclaves au Sénégal. On se demande, mais où sont tous ces descendants d'esclaves? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et ça a été la principale difficulté dans mes recherches. Vraiment, on a envie de savoir, d'écouter les gens, de les entendre sur l'histoire de l'esclavage. Mais on sent ce frein-là. On n'a pas le droit de les interroger sur leur statut.
Est-ce que vous avez un exemple d'histoire qui vous a marqué, de quelqu'un qui a accepté de vous raconter son parcours en tant que descendant d'esclaves?
Oui, c'est ça. Et là, je pourrais raconter l'histoire d'une dame et je vais changer le nom. Je vais lui donner un autre prénom. Je vais l'appeler Fama. Alors, Fama, c'est une descendante d'esclaves. Elle m'a dit que sa grand-mère venait du Mali, qu'elle a été achetée là-bas par des chasseurs d'esclaves. Et elle a été vendue à Tamba, à Tambacounda, revendue, et elle s'est installée avec la famille de son propriétaire à Tamba. Mais avec l'abolition de l'esclavage, elle a pu se racheter. Ça veut dire qu'elle a payé pour sa libération.
Elle a payé ses propriétaires, en fait.
Ouais, oui. Parce que l'administration avait mis en place ce genre de ce qu'on appelle le rachat. L'esclave domestique pouvait payer son propriétaire pour se libérer et partir s'il le voulait ou bien rester avec eux. Mais il n'était plus esclave, moyennant une somme de 500 francs, je crois. Elle a été libérée. Donc, elle s'est mariée forcément avec un esclave. Elle a eu des enfants. Et Fama, c'est la petite fille à cet esclave. Alors, quand Fama est née, parce que les deux familles, la famille de sa grand-mère et la famille du propriétaire de sa grand-mère, étaient toujours en étroite relation. Il y avait des relations fraternelles entre eux. Quand Fama est née, quand elle a eu 2 ans, un membre de la famille du propriétaire de sa grand-mère est venu le réclamer à sa maman. Pas le réclamer en tant que esclave à lui, mais il a voulu qu'on lui confie Fama pour qu'il l'éduque. Et la maman a accepté, et ce fut le malheur de Fama. Parce que Fama, une fois arrivé chez le monsieur, en fait, il était traité comme une esclave. Elle dormait par terre. On l'a réveillée avec un pot d'eau, de l'eau qu'on lui versait sur le visage. Et le monsieur avait 4 femmes, et c'est elle qui se chargeait de la lessive pour tout le monde. C'était le quotidien de Fama. Et à l'âge de 16 ans ou 15 ans, elle a été mariée de force par un homme d'âge très avancé. Et elle n'a pas eu son mot à dire. Et très fatiguée qu'elle était, elle a pris la fuite. Et elle est venue s'installer en ville.
Et vous l'avez rencontrée ensuite?
Oui, je l'ai rencontrée. Beaucoup plus tard, bien sûr.
Pendant vos enquêtes de terrain?
Oui, pendant mes enquêtes, et elle m'a raconté son histoire. Mais tout en me précisant que je ne suis pas une esclave. Ma grand-mère s'était rachetée.
Sans commentaire, Charlie Dupiau, merci infiniment de nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir fait partager sans manichéisme et sans tabou toutes ces poignantes histoires d'esclavage passées et présentes, et l'implication aussi de tous ces chercheurs que vous avez rencontrés, Charlie, et qui nous renvoient tout autant à notre humanité qu'à notre inhumanité. Autour de la question à partager, à podcaster en ce mois des mémoires où nous célébrons sur RFI le 20e anniversaire de l'adoption de la loi Taubira sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Nous continuerons demain à mettre nos mémoires en question, plus exactement d'initier une réflexion originale et inédite sur les lieux de mémoire sonore, en compagnie d'une anthropologue et d'un musicologue qui nous feront partager leurs recherches sonores et musicales et les témoignages poignants qu'ils ont recueillis autour de la question « Quels sont pour survivre ? Quels sont pour tuer ?» C'est notre mémoire intime qui jouera sa partition pour le meilleur mais aussi pour le pire, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro. Merci pour votre fidélité, pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure du prochain journal.
Rendez-vous sur